France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est quasiment à la seconde près, 13h. Ne serait-ce pas l'heure de votre journal, Éric Delvaux ?
Vous avez tout compris. Bonjour mon cher Thomas et bienvenue à tous à la une de ce 13h. Les hôpitaux israéliens se prépareraient à accueillir le retour des derniers otages. Le Hamas se dit prêt à entrer dans un cycle de négociations. Guerre et paix à Gaza, car les tirs ont continué ce matin, malgré l'appel au calme que réclame Donald Trump. Nous serons en direct à Jérusalem avec Thibault Lefèvre et nous vérifierons l'avancement de ce plan de paix. Un plan dont il reste encore de nombreux points à régler. Nous en parlerons avec notre invité, Leïla Sera, chercheuse au CAREP, le Centre arabe de recherche et d'études politiques. À l'aéroport de Munich, le trafic aérien reprend progressivement. Les vols avaient été interrompus hier soir pour la deuxième nuit consécutive et encore une fois pour une alerte aux drones. À Nice, les auteurs de la fusillade la nuit dernière sont toujours recherchés. Il y a 2 morts, 5 blessés. Le véhicule des suspects a été retrouvé incendié au nord de Cannes. Le cyclisme sur route. Championnat d'Europe, départ dans 1 heure de la course féminine, c'est à Prival départ en Ardèche, nous y serons en direct. Enfin, étape dans ce journal à Concarneau pour le départ demain en voilier de Roland Jourdain. Il part acheminer des œuvres d'art jusqu'au Brésil. Le temps de ce samedi, Céline Dacosta, d'abord attention à la tempête Ami. 6 départements sont en vigilance orange dans le nord du pays où le ciel est donc bien agité.
Oui, du sud-ouest au nord-est où on retrouvera de bonnes averses. Et le vent va continuer à bien souffler également sur le nord du pays.
Et vos prévisions complètes dans 20 minutes. Encore des tirs de l'artillerie israélienne ce matin dans la ville de Gaza, malgré la demande de Donald Trump de stopper immédiatement les hostilités. Depuis que le Hamas se dit prêt à ouvrir des négociations pour libérer les derniers otages israéliens et envisager un arrêt de la guerre, le Hamas d'accord donc pour accepter une partie du plan de paix proposé par Donald Trump. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Eric.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors on a beau parler de perspectives de paix, pour l'instant la guerre continue à Gaza.
Oui, la défense civile palestinienne confirme ce matin de nouvelles frappes sur cette ville de Gaza et l'armée israélienne a rappelé aux déplacés par la voix de son porte-parole arabophone que le nord de l'enclave était toujours une zone de combat active et dangereuse. Je vous rappelle qu'immédiatement après la réponse du Hamas tard hier soir, Donald Trump a exigé des Israéliens qu'ils mettent immédiatement fin au bombardement pour permettre la libération des otages. Une demande qui n'est donc pour le moment pas suivie d'effet dans le plan du président américain. Les belligérants ont théoriquement 3 jours jusqu'à lundi soir donc pour procéder à l'échange. D'un côté, tous les otages, ils sont 48 toujours aux mains du Hamas et du djihad islamique, dont 20 présumés vivants. Et de l'autre, 250 prisonniers palestiniens qui purgent des peines de prison à vie et 1700 détenus arrêtés après le massacre du 7 octobre 2023. Et pour beaucoup, maintenus en prison sans charges avérées.
Et ce matin, Thibault, quels sont les signes positifs qui laissent penser qu'un échange se prépare bien entre otages et prisonniers ?
Eh bien d'abord, les belligérants et les médiateurs ont tous validé le principe de cet échange et ils doivent se réunir pour des négociations en Égypte. Et puis, malgré les bombardements, l'armée israélienne a gelé ce matin son avancée au sol dans la ville de Gaza et les 3 bataillons engagés ont reçu l'ordre de rester sur des positions défensives. Non, ce qui pose problème, c'est la suite, la question du désarmement du Hamas notamment. C'est une exigence israélo-américaine qui pour le moment n'a pas été évoquée par l'organisation islamiste. Autre point de friction à venir, la future gouvernance de Gaza. Le Hamas compte participer aux prochaines négociations alors que le plan Trump sort ses dirigeants de l'équation.
Thibault Lefèvre, en direct de Jérusalem. À l'instant, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme juge qu'il y a une chance de mettre fin à ce qu'il appelle le carnage à Gaza, une fois pour toutes, dit-il, et on vient de l'entendre avec Thibault Lefèvre. Ce plan de paix est aussi une affaire de calendrier qui s'annonce serré. Lundi soir au plus tard, le Hamas devrait libérer les otages. Ils sont encore 48, dont la moitié serait mort. Bonjour, Leïla Sera.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CAREP, le Centre arabe de recherche et d'études politiques. Le Hamas, sait-il seulement où se trouvent les derniers otages ou leurs dépouilles ?
Le Hamas a plusieurs reprises informé les Israéliens que plusieurs des otages se trouvaient dans la ville de Gaza. Et donc, s'ils poursuivaient la campagne de bombardement intensif sur Gaza City, ils risquaient en effet de perdre les derniers otages vivants, oui.
Parce qu'on évoquait un problème de calendrier, un problème de délai pour rassembler, pour retrouver les otages. C'est un des points faibles de cet accord et du calendrier serré ?
Non, je ne crois pas que ce soit un point faible de cet accord. Les ultimatums, si vous voulez, le calendrier avec ces ultimatums, ça fait toujours partie aussi du plan Trump d'imposer des pressions au Hamas pour qu'il justement cède et qu'il capitule. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est ce plan, enfin c'était une tentative avant tout de Netanyahou. C'est un plan israélien d'abord. Ce qu'il faut dire, c'est le plan Trump, c'est un plan israélien et c'est le plan Netanyahou pour l'emporter sur le terrain à Gaza, là où il a échoué à le faire par les armes. Là où il faut voir une différence entre ce plan et les plans précédents, c'est que pour la première fois, c'est pas seulement un plan qui consiste à faire capituler le Hamas et uniquement le Hamas, c'est aussi un plan qui impose un plan global de gouvernance de la bande de Gaza, qui retire totalement aux Palestiniens et qui confie probablement à Tony Blair. Donc pour les Palestiniens, si vous voulez, c'est rien d'autre que la poursuite d'une occupation coloniale, puisque Tony Blair, de surcroît, s'est perçu par les Palestiniens comme un retour tout simplement au mandat britannique qui avait lui-même permis la colonisation de la Palestine. Donc c'est un plan, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a été conçu et construit pour être refusé. D'abord dans le fond et dans la forme. Vous parliez des ultimatums, là on est sur la forme.
Et le risque aussi.
L'ultimatum perpétuel émis par Donald Trump.
Et il risque aussi d'y avoir un refus du Hamas de déposer les armes. Là encore, c'est un point faible de ce plan Trump et Netanyahou.
Ah bah non, justement, là où le Hamas, qui était dans une situation ces dernières 72 heures, dans une situation d'impasse, puisque Trump a conçu un plan en ralliant aussi l'ensemble des pays arabes, la Turquie, l'Indonésie, le Pakistan, qui est aussi une nouveauté dans ce plan, il a été marketé comme consensuel et accepté, validé par des pays amis du Hamas. Donc c'était aussi une manière de forcer le Hamas à comprendre qu'il était dans cette situation d'impasse, qu'il devait capituler. Mais en acceptant le deal hier soir, avec des propositions d'amendements bien sûr, le Hamas a, je pense, déjoué cette stratégie israélienne. Et contrairement à ce qu'Israël espérait, le refus de l'accord n'a pas eu lieu. Donc on voit bien que la stratégie diplomatique, c'est de dire d'abord, nous aussi on veut s'arrêter, de remercier non seulement Trump, mais tous les pays arabes qui avaient accepté, validé un plan de capitulation du Hamas, un plan qui allait à l'encontre de l'autodétermination des Palestiniens. Le Hamas a utilisé aussi, je crois, le besoin de Trump d'apparaître comme un homme de paix, en flattant Trump, en le remerciant, etc. Parce que l'image de Trump a aussi, il faut le dire, été gravement entachée par le génocide. Et donc, je crois que le Hamas a déjoué cette stratégie israélienne en acceptant l'accord.
Cet accord Trump-Netanyahou, il prévoit aussi un retrait des troupes israéliennes. Ce ne pourrait être qu'un retrait israélien par étapes.
Oui, bien sûr, c'est un retrait par étapes, mais c'est un retrait justement qui... C'est pour ça que le Hamas avait des difficultés à l'accepter et ne l'a toujours pas accepté sans clarification de certains points, notamment le retrait, puisque, comme vous le dites très justement, le retrait n'est pas garanti. C'est un retrait par étapes et le Hamas s'est très bien que s'ils libèrent la totalité des prisonniers et des otages, les Israéliens peuvent tout à fait ne pas sortir de la bande de Gaza. D'ailleurs, il faut peut-être dire aussi que Netanyahou a lui-même considéré, après l'annonce du plan Trump, qu'il ne souhaitait pas évacuer militairement la bande de Gaza. Donc il l'a non seulement refusé lui-même après l'annonce de Trump en invalidant certains points de l'accord. Il y avait 23 points, il n'y en a plus que 20, etc. Donc le Netanyahou a aussi essayé de contrecarrer ce plan et a déclaré que de toute façon le retrait israélien ne se ferait pas.
Pardon de vous presser, il reste 20 secondes. Est-ce que l'extrême droite israélienne va accepter sans broncher de voir partir les forces israéliennes de Gaza ?
Non, l'extrême droite israélienne fait pression sur Netanyahou afin que celui-ci refuse l'accord, effectivement.
Merci beaucoup de ces précisions et d'avoir éclairé nos lanternes. Leïla Sera, chercheuse au CAREP, le Centre Arabe de Recherche et d'Études Politiques. D'après la presse israélienne, l'armée donc a gelé ses positions dans la ville de Gaza ce matin, pendant que l'administration se prépare à gérer la sortie des otages. Et même s'il y a eu quelques scènes de joie à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Parmi les Gazaouis, le doute persiste encore sur la réalité et même la pertinence de cet accord. Écoutez ce témoignage, il s'appelle Nedal, réfugié au sud de la ville de Gaza.
On est très inquiets et on doute du résultat de ce plan. Parce qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives dans le passé et on a vu plusieurs échecs. Ça va aussi prendre beaucoup de temps avant d'être appliqué concrètement. Ce que veulent les gens, ce qu'on veut, c'est que cette guerre s'arrête. Mais le plan américain ne nous satisfait pas. Les gens comme moi, on veut retourner dans nos maisons et le plan ne garantit pas un retour dans le nord. Donc on doit attendre et on ne sait pas ce qui va se passer dans les heures ou les jours qui viennent.
Pour ce témoignage recueilli par Étienne Monin et selon un responsable du Hamas, l'Égypte s'apprête à accueillir une conférence palestinienne sur l'avenir de Gaza. Au Maroc, c'est le retour au calme après deux nuits d'émeutes et d'attaques de symboles de l'État. Le collectif des jeunes marocains baptisé Gen Z212 réclame de meilleurs services de santé et d'éducation aussi. Les hôpitaux marocains sont en piteux état. Illustration à Casablanca avec ce reportage de Cédric Kalfi.
Après deux nuits d'émeutes, deux nuits de calme ici au Maroc, non pas parce que le discours du Premier ministre Aziz Hamdouche et ses promesses d'entendre leurs aspirations a convaincu les jeunes, mais après le choc de ces trois décès lors de l'attaque d'une gendarmerie près d'Agadir, on a vu ces dernières nuits un sursaut patriotique chez ces jeunes qui sont allés jusqu'à nettoyer les rues, sympathiser et offrir des fleurs à la police. Cela n'enlève en rien leur volonté de plus de justice sociale. La Gen Z prouve qu'elle sait se tenir, mais n'en abandonne pas moins ses revendications. Cette jeune mère de famille explique pourquoi elle ne veut pas de second enfant.
C'est de la torture dans les maternités. Je ne veux même plus de second enfant à cause des maltraitances qu'on m'a fait subir à l'accouchement. On maltraite les femmes à l'hôpital.
Mohamed Oulkhouir est juriste. Il comprend les attentes de cette jeunesse.
On peut faire des stades en quelques mois. Quand dans le même temps, l'hôpital de Tétouan des spécialités qui était censé être terminé il y a 10 ans, ne l'est toujours pas 10 ans plus tard, donc forcément on ne comprend pas.
Coupe du Monde 2030 en tête, la jeunesse marocaine ne veut pas être sacrifiée au profit de stades et même à Sagi, elle compte bien le faire savoir. Casablanca, Cédric Ralfi, France Inter.
Le trafic aérien reprend progressivement à l'aéroport de Munich. Les vols avaient été interrompus hier soir pour la deuxième nuit consécutive, encore une fois pour des alertes aux drones. Ces incidents qui se multiplient en Europe sont attribués à la Russie. Correspondance en Allemagne de Nathalie Versieux.
Jusqu'à 6 drones de petite taille ont été vus hier vers 19h30 à proximité de l'aéroport de Munich. Une heure plus tard, les premiers appareils survolaient l'enceinte à proximité cette fois des pistes d'atterrissage, déclenchant une nouvelle fermeture de l'aéroport dans la soirée pour la deuxième nuit consécutive. 17 vols ont été annulés, 15 autres détournés vers Vienne ou Leipzig, à l'heure où des dizaines de milliers de touristes du monde entier se pressent vers la capitale bavaroise pour la fête de la bière. Quelques 6000 passagers ont passé la nuit dans les couloirs de l'aéroport. Malgré l'alerte, la police n'a pu intercepter aucun des drones ni identifier leurs propriétaires. Le trafic a repris ce matin vers 7h. À Berlin, Nathalie Versieux, France Inter.
En Géorgie, élection locale aujourd'hui, scrutin local donc, mais le résultat va largement dépasser les frontières de cette ancienne République soviétique sur laquelle Vladimir Poutine entend remettre la main. Élection largement boycottée par l'opposition qui accuse le parti pro-russe au pouvoir d'avoir truqué les précédents scrutins. Les pro-européens d'ailleurs appellent à manifester massivement dès aujourd'hui en Géorgie. Je rappelle que deux anciens présidents géorgiens lancent une alerte. Correspondance Marie-Pierre Véraud.
C'est la dernière chance de sauver la démocratie. C'est ce qu'écrit l'ancien président Mikhail Saakachvili depuis sa prison. La rue, les manifestations, plutôt que les urnes dans ce petit état sous emprise de la Russie. Se mobiliser malgré le risque de nouvelles arrestations, tant la répression s'abat sur les partisans de l'Union européenne. L'ancienne présidente Salomé Zourabichvili s'adresse quant à elle aux 27. « N'oubliez pas la Géorgie », s'exclame-t-elle dans une interview à la revue Le Grand Continent. la Géorgie, laboratoire de la Russie pour manipuler les scrutins, comme ce fut le cas plus récemment en Moldavie et Roumanie, la Géorgie qui a aussi été envahie par les forces russes dès 2008, avant donc l'Ukraine. 20% du territoire est toujours occupé. Et elle souhaite maintenant s'emparer de l'État géorgien, met en garde Salomé Zourabichvili, avec un message clair aux dirigeants européens: regardez ce qui se passe en Géorgie, car les événements qui s'y produisent détermineront l'avenir de nombreux autres pays et en fin de compte, celui de l'Europe elle-même.
Les élections en Géorgie, expliquées par notre correspondante Marie-Pierre Vérot.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
À Nice, les auteurs de la fusillade la nuit dernière sont toujours recherchés. Ils sont vraisemblablement liés au narcotrafic. Il y a 2 morts, 5 blessés. Écoutez le témoignage de cette journaliste. Elle s'appelle Siam Spencer. Elle est autrice du livre intitulé « La laverie » dans le quartier des Moulins à Nice, quartier présenté comme le plus gros point de deal des Alpes-Maritimes, là où elle a vécu durant un an.
Le premier réveil que j'ai passé au Moulin, il y a eu des coups de feu quasiment en fait à l'endroit où il y a eu hier la fusillade, donc justement au niveau de ce point de deal de la laverie. En fait, il y a des sommes d'argent en jeu qui sont absolument énormes. À l'époque où moi j'habitais là-bas, c'était à peu près 17 000 euros par jour sur ce point de deal-là. Donc forcément, en fait, ça fait des envieux. Et derrière, on va avoir plusieurs camps qui vont vouloir récupérer ce point de deal. Et à chaque fois qu'un point de deal aussi est démantelé par la police, ça fait en fait un terrain à récupérer. La violence augmente. Il y a eu l'été dernier 7 morts dans un incendie dans le quartier, dont des mineurs, des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le narcotrafic. Et c'est plein en fait d'histoires comme ça qui s'accumulent, qui font que les gens commencent à avoir de plus en plus peur et transforment un petit peu leur vie, même si les intimidations directes, c'est pas du tout monnaie courante au Moulin.
Et le véhicule des suspects à l'origine de la fusillade hier soir à Nice a été retrouvé, incendié à Mougins, c'est à 6 km au nord de Cannes. Le SNCTA, le principal syndicat des contrôleurs aériens, suspend son préavis de grève de mercredi, jeudi et vendredi prochain après un accord trouvé avec la direction, sans que l'on sache à ce stade le détail des avancées obtenues sur leurs revendications salariales. Une semaine après les championnats du monde de Kigali au Rwanda, revoici les équipes de France de cyclisme sur route. C'est ce week-end en Ardèche, championnat d'Europe. La course en ligne féminine partira dans 3 quarts d'heure au départ de Privas. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Alors les Françaises sont certes privées de Pauline Ferrand-Prévot, mais elles ont bien l'intention de se racheter hein, après les ratés de la semaine dernière.
Ah oui, après la non-course hein, des favorites de ces championnats du monde où tout le monde s'était laissé piéger avec la victoire de la Canadienne Magdalene Vallière. Et parmi eh bien, les favorites actuellement, il y a effectivement Juliette Labousse. Elle est très très en forme. On l'a vu le week-end dernier hein, à Kigali. C'est elle qui a essayé de tracter, qui s'est sacrifiée un temps pour Pauline Ferrand-Prévot. On l'a encore vu cette semaine avec la médaille d'or de l'équipe de France sur le relais mixte et un superbe relais notamment de Juliette Labousse. Là, elle va avoir sa carte à jouer. Enfin, la Byzantine de 26 ans, elle va être la leader de cette équipe de France sur un parcours exigeant. Mais attention, elle n'est pas la seule à vouloir se racheter. Je vous l'ai dit, toutes les favorites la semaine dernière ont été piégées. Et si Pauline Ferrand-Prévot n'est pas là, eh ben, on a tout de même au départ Demi Vollering, la néerlandaise, l'italienne Elisa Longo-Borghini ou encore la suissesse Marlène Reusser. Donc attention, du beau monde. Mais les Françaises ont de quoi jouer et s'amuser sur un parcours très difficile de 116
kilomètres. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe féminine cycliste arrivée prévue, vous l'avez dit, à Guilherand-Grange en Ardèche, donc aux alentours de 17h. C'était Fanny Lechevestrier. On va terminer ce journal avec une forme de performance en bateau, performance artistique presque. Transporter des œuvres d'art à bord d'un voilier et non pas par avion. C'est un projet que l'on doit au navigateur Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum, et de l'artiste contemporain Xavier Vélan. Et ils vont partir demain de Concarneau à bord du voilier We Explore pour le Brésil, là où l'artiste va exposer ses œuvres en novembre. Et Anne Chépeau a rencontré les deux hommes avant leur départ.
Cette traversée est un défi pour Xavier Veillant, car il va créer à bord les œuvres qu'il va exposer à São Paulo. Objectif, montrer qu'une autre voie est possible, renoncer au transport aérien et privilégier la sobriété. L'atelier qu'il installe à bord fonctionne ainsi sans électricité.
On a transformé des petits kits d'équipement semi-professionnel de menuisier. On les a combinés avec des pédaliers qui permettent de les mettre en mouvement et de découper des formes qui vont servir à être transformées en œuvres pour l'exposition à venir.
Xavier Veillant va sculpter le bois, peindre, dessiner, tourner un film. Son atelier est installé sur la terrasse du cockpit avec possibilité de repli à l'intérieur en cas de mauvais temps. Tout est prévu pour le stockage des œuvres, emballées dans du carton recyclable et mises sous vide. Roland Jourdain.
Si on descend dans les coques, là on regarde la cabine arrière, donc il y a deux grandes soutes, deux grands espaces en fait sous chaque cabine qui permettront de stocker des œuvres au fur et à mesure. Il y a aussi un grand espace au-dessous de chaque lit dans la cabine avant. Je pense qu'en volume, il a de quoi s'exprimer.
Pour l'instant, le coût du projet n'est pas compétitif par rapport au transport aérien, mais la traversée a un autre objectif. En parallèle, Roland Jourdain et ses deux équipiers vont réaliser des prélèvements et des enregistrements dans le cadre de recherches sur le plancton et sur l'acoustique sous-marine conduite avec le muséum, le CNRS et l'Université de Toulon.
Et l'arrivée à Sao Paulo est prévue à la fin du mois après une traversée de 25 à 26 jours. Avant la météo, notez que 6 départements du nord de la France sont placés en alerte orange au vent depuis midi. La tempête Ami fait souffler donc des vents qui peuvent être dangereux. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La pluie et le vent au programme cet après-midi.
Oui, on va retrouver notre perturbation de l'Aquitaine au nord-est et en descendant jusqu'aux Alpes avec des averses parfois soutenues. Là où la perturbation est déjà passée, donc sur le nord du pays ce matin, on va avoir un ciel de traîne. Il sera peu actif en début d'après-midi, ce qui veut dire que vous profiterez de larges éclaircies. Les averses reviendront un petit peu plus tard, en deuxième partie d'après-midi, et même dans la soirée entre le Poitou-Charentes et la région centre. Mais on aura encore de bonnes rafales de vent sur toute la moitié nord, particulièrement sur les côtes de la Manche, avec des rafales comprises entre 90 et 120 km à l'heure pour la côte d'Opale. Pour retrouver un ciel plus ensoleillé et plus sec cet après-midi, direction les côtes méditerranéennes et la Corse.
Et d'ailleurs, c'est là dans le sud qu'il fera le plus chaud.
Oui, on peut parler de chaleur parce que la moyenne ira encore de 23 à 29 degrés sur ce secteur. 29 degrés, c'est pour Perpignan. 16 à 24 degrés pour le reste de la moitié sud sous les nuages et la pluie. Un petit peu moins sur la moitié nord après le passage de la perturbation, puisque la moyenne en baisse ira de 13 degrés à Langres dans le nord-est jusqu'à 18 degrés à Nantes.
Les prévisions de Céline Dacosta.